Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cours MVA sur les fondamentaux C#. Nous en sommes au 12e module. J'arrête de montrer les mains parce que j'ai plus assez de doigts. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur les classes et les objets et nous allons parler d'héritage. Alors, l'héritage, c'est quoi? Je reprends mon petit morceau de bloc-notes ici. Eh bien, c'est permettre d'hériter d'une classe l'ensemble de ses propriétés et méthodes pour créer une autre classe qui aura, eh bien, les mêmes propriétés et méthodes que la première, et avec en plus ses propres méthodes et propriétés à elle-même. Donc on va aborder plusieurs mots-clés qui vont nous permettre de faire de l'héritage, qui sont virtual, override, abstract et seed. Alors pour cela, je vais reprendre mon projet Visual Studio. Alors je vais shifter. Voilà. Donc ici, je me retrouve sur mon projet Visual Studio tel que nous l'avions vu tout à l'heure, avec des customers, avec deux customers que j'ai créés, avec ma classe customer qui est ici. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est, on va dire que dans mon programme, j'ai non seulement des clients, mais aussi des employés. Et donc, ce que je vais faire, eh bien, je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler employé. Alors, évidemment, il me crée un nouveau fichier .cs dans lequel il m'a déjà créé un template de classe vide qui s'appelle la classe employé. Et supposons que cette classe, eh bien, elle ait les mêmes propriétés que ma classe customer, c'est-à-dire qu'elle ait un prénom, un nom, une date d'anniversaire et différentes méthodes. Donc ce que je peux faire ici, au lieu de faire un copier-coller, parce que vous savez que le copier-coller c'est le mal, au lieu de faire un copier-coller de l'ensemble de toutes ces propriétés privées, de tous ces accesseurs, eh bien, ce que je peux faire tout simplement ici, c'est de mettre un deux points customer. Juste en ayant fait ça, juste en ayant précisé ici deux points customer, eh bien ma classe employée va hériter de toutes les propriétés et méthodes de la classe mère qui s'appelle la classe customer. Ce qui fait que du coup ici, automatiquement ce que je peux faire ici, c'est faire employé 1 égale new employé. Et vous allez voir qu'automatiquement j'ai déjà accès à toutes les propriétés et méthodes de la classe de base. Donc je peux dire ici first name est égal à John et employee1.lastname est égal à Do. Voilà, automatiquement, ça continue à fonctionner. Je peux même appeler la méthode de la classe de base employee1.getCompleteName et je vais afficher ça dans la console. Console.WriteLine. Automatiquement, ça fonctionne évidemment et je récupère le nom complet de mon employé. Sauf que vous voyez qu'il y a marqué mon client, John Doe, avec la ville. Et c'est voir afficher mon client alors qu'on parle d'employé, ce n'est pas forcément ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de changer la méthode de getCompleteName pour l'employé pour qu'elle ne soit pas la même que celle de customer. C'est ce qu'on va appeler une surcharge de méthode, ce qu'on appelle un override en anglais. Donc la première chose à faire, c'est de dire à la classe customer, eh bien, que cette chaîne ici, que cette méthode getCompleteName, elle est virtuelle, c'est-à-dire qu'on autorise une classe qui hériterait de customer, eh bien, de changer le comportement de getCompleteName pour, eh bien, renvoyer quelque chose de plus cohérent. Et à ce moment-là, ce que je peux faire ici, dans employee, je peux lui dire de surcharger override getCompleteName, vous voyez qu'il apparaît automatiquement ici, c'est l'avantage de la marquer en tant que virtuel. Et automatiquement, ce que je vais lui dire, alors ici, il y a marqué, regardez ce qu'il y a marqué ici, c'est si jamais je ne fais rien, return base, ici le mot-clé base, ça veut dire qu'il va renvoyer eh bien, ce que contient la méthode getCompleteName de l'instance de base, c'est-à-dire de l'instance de customer. Base, c'est toujours, on remonte d'un niveau dans l'héritage pour aller récupérer eh bien, le résultat de la méthode de la classe mère. Donc ici, ce que je vais faire, je vais dire, ben non, écoute, tu ne me renvoies pas return base.completename, tu vas me renvoyer return string.format de employé de point, et je vais mettre 0, 1, virgule, et je vais appeler this .firstname et this.lastname. Alors this, c'est aussi un mot-clé dont on n'aurait pas trop parlé, qui est quelque chose que j'utilise relativement fréquemment moi-même. Eh bien, c'est tout simplement de dire que, comme ici on a dit que base, ça permettait d'attaquer l'instance mère, c'est-à-dire customer, this permet d'attaquer l'instance en cours, c'est-à-dire au niveau où je me trouve. D'accord? Donc this, en fait, c'est l'employé en cours. Okay? Base, ça serait plutôt le customer, et this, ça serait plutôt l'employé en cours. Ce qui est vrai, ce qu'on peut dire aussi, c'est que vu que je suis au niveau employé, c'est exactement la même chose que si j'avais écrit comme ça. Moi, j'aime bien marquer, utiliser le this parce que ça me permet de vraiment me repérer dans mon arborescence quand je fais de l'héritage. Bien. Donc ici, du coup, lorsque je fais ça, et maintenant, lorsque je reviens ici, dans mon programme, et bien, vous allez voir qu'automatiquement, il va bien utiliser la bonne méthode getCompleteName. Il me renvoie bien employee.johnDoe. Alors, vous savez qu'évidemment, maintenant, on est dans mon classe employé, je peux rajouter ici, dans ma classe, et bien, des propriétés qui seraient vraiment attachées à l'employé, qui ne serait pas commune avec mon customer. Par exemple, une propriété qui serait son numéro d'employé. Alors rappelez-vous les propriétés, on a vu qu'on pouvait les écrire simplement en mettant un public string get et set. Ce que je peux faire aussi, c'est utiliser un snippet. Donc j'écris sur prop, et après je fais deux fois tab, une fois, deux fois, et automatiquement il me crée le stub. Si je mets un string, je reclique encore une fois sur tab, une fois, deux fois, et ici j'appelle ça employé number. Et une fois que j'ai terminé, j'appuie sur Entrée. Voilà. Donc ici, je n'oublie pas de mettre de commentaire numéro d'employé. Voilà. Et automatiquement, ici, j'ai à ma disposition, dans l'instance employé, eh bien, la méthode employeeNumber, que je peux mettre égale, par exemple, à A01. Du coup, aussi dans getCompleteName, ici, je peux tout à fait ici mettre employé 012. Ici, je vais mettre 2. Je vais mettre ça entre crochets, c'est marrant. Et ici, je vais mettre this.employé number. Est-ce que ça fonctionne? Oui, A01 John Doe. Bien. Alors après, ici, fonctionnellement, programmatiquement parlant, tout fonctionne. C'est-à-dire que j'ai bien une classe qui en hérite d'une autre et ça fonctionne. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est de dire finalement, un customer, un client, ça n'a absolument rien à voir avec un employé, c'est vraiment deux personnes différentes. Pourquoi est-ce que j'hérite un client? Pourquoi est-ce qu'un employé hériterait d'un client? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'un client et qu'un employé hériteraient plutôt d'une classe de base qui serait, eh bien, une personne. D'accord? Ce qui serait plutôt mieux, c'est plutôt d'avoir un customer qui. Un employé qui hériterait d'un customer, plutôt d'avoir un customer et un employé qui hériterait d'une classe de base qui s'appelle personne. Je préfère plutôt le voir comme ça serait peut-être plus cohérent en termes d'implémentation. Donc ce que je vais faire ici, je vais plutôt rajouter ici une nouvelle classe que je vais appeler personne. Et cette classe personne va contenir eh bien, tout ce qui est commun à une personne, c'est-à-dire qu'elle a globalement ici un first name, un last name. Donc je vais faire CTRL X, CTRL V. Je vais récupérer les accesseurs ici, ici et ici. CTRL X, CTRL V. Voilà. Je ne récupère pas la city parce qu'une personne n'a pas forcément de ville. Par exemple, on pourrait imaginer qu'un employé, ben, on n'est pas la ville de l'employé. Ici, du coup, ici, forcément, dans mon constructeur, j'ai des problèmes parce que la propriété first name n'existe pas. Donc, ce qu'on va faire, surtout, on va lui dire que customer, eh bien, hérite de personne, voilà, et que employé hérite pas de customer, mais aussi de personne. Bien, voilà qui est fait. Ça me paraît plus cohérent dans l'approche, hein. Ça me paraît plus pertinent. Et si je compile mon code, je vois que ah, j'ai encore un souci, c'est qu'ici, ah oui, il faut que j'override ici, j'en ai plus besoin. Du coup, ce que je vais faire ici plutôt, c'est de faire une méthode virtuelle dans personne, ici, que l'on va appeler public. Virtual string getCompleteName. Et ici, je vais faire un return de string.format de 0, 1, virgule, this, hop là, pardon, this.firstName, this.lastName. Je préfère appeler les accesseurs plutôt que les variables privées. Donc ici, sur employé, ça fonctionne, j'ai bien l'override, et il faut que je fasse la même chose sur le customer, ici, hop, override, je vérifie que j'ai bien mis virtual, parce que du coup j'ai un doute, non c'est bon, donc ici du coup tout devrait fonctionner, et donc dans mon programme, j'ai bien ici un client et un customer, qui héritent chacun de employé, qui ont donc chacun un first name et un last name, bien. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, si je vais un petit peu plus loin, eh bien il faut savoir que, une personne dans mon programme, potentiellement, c'est quelque chose que je ne dois pas utiliser, que je ne devrais pas pouvoir utiliser parce que on peut très bien imaginer que dans mon programme, eh bien, une personne, c'est forcément un client ou c'est forcément un employé. Donc, personne, je n'ai pas le droit, je ne devrais pas avoir le droit de faire ceci. Var p égale new person. Ça, je ne devrais pas avoir le droit de le faire parce que dans mon programme, je n'ai d'intérêt qu'à avoir des customers ou des employés. Finalement, personne, c'est une sorte de template pour créer mes customers, mes employés. C'est quelque chose d'assez abstrait. Alors, j'emploie le terme abstrait à dessein parce que vous allez voir que l'on peut marquer une classe en tant qu'abstracte, c'est-à-dire qu'elle n'a de. Alors, je vais faire une publi... je vais donc la marquer abstract ici. Elle n'a d'existence que si elle est héritée par quelqu'un d'autre. D'accord? Juste en ayant marqué abstract classe personne, eh bien, je ne peux plus faire ceci. Personne, P égale new personne. Ceci, c'est plus possible si j'essaie de compiler. Pourquoi? Parce qu'il me dit que je ne peux pas créer une instance d'une classe qui est abstraite. Finalement, maintenant, ma classe personne, ça devient une classe qui va être, disons-le, un template, un modèle pour les classes du dessus qui vont en hériter. Et après, je peux marquer beaucoup de choses comme ça en étant abstrait. En fait, chaque fois, je dois toujours l'implémenter. Par exemple, ici, ce que je peux faire, le getCompleteName ici, puisque je sais que maintenant, eh bien, j'ai une implémentation dans Customer et dans Employé. Ce que je peux faire ici, au lieu de la marquer virtuelle, je pourrais très bien dire ici abstract string getCompleteName. Et comme j'ai dit que c'était un template, je n'ai plus besoin ici de lui spécifier le code de la méthode. Ici, ça devient une sorte de définition d'une méthode obligatoire à implémenter par les classes qui héritent de personnes. D'accord? Donc c'est vraiment une sorte. Finalement, la classe personne, qui est une classe abstraite, va me permettre de définir un modèle pour l'ensemble de toutes les classes qui auront besoin de représenter quelqu'un, en fait. Et du coup, ici, lorsque je suis dans Customer, eh bien, j'ai bien l'implémentation de getCompleteName, que ce soit côté customer ou côté employé. Supposons ici que je crée une nouvelle classe que je vais appeler, juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, je vais l'appeler, je ne sais pas moi, nous avons des customers, nous avons des employés, nous avons je sais pas, des prospects, hop, prospect, voilà. Lorsque je fais ici prospect et que je lui dis d'hériter de personne, vous allez voir qu'ici automatiquement j'ai un petit tiret bleu qui apparaît. Si je passe ma souris dessus et que je clique dessus, il me dit si tu veux, je peux implémenter l'ensemble des méthodes et des propriétés qui sont obligatoires. Et automatiquement il me dit attention, il faut absolument que tu implémentes getCompleteName. Donc ce sera à moi de renvoyer ce qu'il faut quand j'appelle la méthode getCompleteName. Bon. J'ai juste pour vous montrer un petit peu l'implémentation qu'on en fait. C'est vrai que personne devient vraiment eh bien, un modèle pour l'ensemble des classes qui vont l'implémenter. Évidemment, après, je peux continuer. Je peux faire des chaînes comme ça d'héritage. Je pourrais très bien dire ici, je pourrais très bien aussi rajouter ici une classe qui s'appellerait Great Customer, qui hériterait non pas de personne, mais qui hériterait directement aussi de customer. D'accord? Donc ça, c'est encore possible, dans lequel je pourrais rajouter une propriété qui serait int, je sais pas moi, le field bank account, peu importe qui serait l'argent que représente mon customer, bref, etc. Donc on peut chaîner, etc., notre héritage, et on peut aussi l'empêcher. Comment est-ce que je fais pour empêcher que l'on puisse hériter de la classe Customer? Donc pour l'instant ici tout va bien, j'accompile. Ici, si je place le mot-clé dans ma classe ici, sealed classe Customer, eh bien je n'ai pas le droit d'hériter de la classe Customer. D'ailleurs, vous voyez, automatiquement, si je reviens sur mon Great Customer, il me dit que je n'ai pas le droit d'hériter de la classe Customer. Ça vous permet de protéger vos classes si vous ne voulez pas que quelqu'un utilise votre classe et en hérite. Donc ici, du coup, ça, je vais le mettre en commentaire pour pouvoir continuer. Donc, on a vu dans ce cours, eh bien, la façon d'implémenter une classe abstraite, qui est finalement une sorte de modèle. Personne est un modèle pour les classes qui vont l'implémenter. Bien. Je reviens dans mon programme ici. Donc, j'ai un customer, un client et un employé. Sur les deux, je peux appeler employé.getCompleteName, etc. Supposons que je crée cette méthode-là. Static void write to console et que je passe en paramètre un customer C. Et que dans cette méthode-là, finalement, je fasse un console.writeLine de C.getCompleteName. D'accord? Automatiquement, ici, effectivement, je peux, au lieu d'appeler cette méthode-là, je peux directement faire write to console de client 1. Donc, effectivement, je vérifie que ça fonctionne. Donc, ça fonctionne. Par contre, ce qu'il y a, c'est que je ne peux pas faire ça, write to console de employee 1, puisqu'il me dit, attention, j'attends en paramètre eh bien, un customer, et du coup, eh bien, cet appel de méthode n'est pas valable parce que vous me passez un employé. Eh bien, ce qu'on va faire ici, c'est tout l'intérêt du mécanisme d'héritage, c'est que je peux lui dire, alors soit je peux faire ceci, qui n'est pas extraordinaire, hein, donc je passe l'employé en paramètre, et à ce moment-là, je peux appeler le getCompleteName, mais ça, ce n'est pas du tout ce que l'on veut. Plutôt, ce que l'on veut, c'est plutôt quelque chose comme ça, dans lequel je fais un write to console, et au lieu de passer un customer ou un employé, je vais passer la classe de base, donc qui va être une personne, P, et cette personne-là a bien la méthode getCompleteName, puisqu'on l'a spécifiée ici, hein, ici, donc c'est une méthode qui est abstraite, hein, et lorsque je vais passer ici au runtime, write to console de l'employé 1, et puis après je vais passer l'employé, je vais passer le customer, le client 1, eh bien, lorsqu'il va passer dans cette console, la personne qui va passer sera soit un customer, soit un employé. Ce que je vous propose ici, c'est de mettre un point d'arrêt et on va voir un petit peu ce qui se passe lorsque je fais au runtime. Donc, j'arrive ici, je fais F10 et vous voyez que la personne qui me passe ici, c'est un employé. On le voit bien ici dans l'intellisense, employé. Et donc, automatiquement, il appelle la bonne méthode getCompleteName. Et au deuxième passage, quand je passe avec le client 1, vous voyez qu'ici, la personne, c'est un customer. Et il va aussi appeler la bonne méthode. Voilà, donc du coup, ici, j'ai bien l'employé, l'appel de la méthode sur l'employé et l'appel de la méthode sur mon client. Voilà, donc le gros intérêt de l'héritage et d'utiliser des classes abstraites de base, c'est qu'automatiquement, on va pouvoir utiliser la classe de base pour appeler des méthodes qui sont communes aux deux, alors que les deux implémentations sont complètement différentes. Donc, on a vu un chapitre un petit peu particulier de la programmation orientée objet, qui est donc l'héritage. Vous verrez que dans le framework, il y a énormément d'objets qui héritent d'une classe de base. Souvent, dans le framework.NET, eh bien, nous avons des classes de base qui sont le plus bas niveau, qui sont des classes abstraites. Je prends par exemple la classe Stream, qui est quelque chose que vous utiliserez énormément, d'ailleurs que l'on a utilisé dans un précédent cours pour utiliser ce qu'on appelle un file stream. Et bien, vous verrez que la classe stream, c'est une classe abstraite que l'on ne peut pas directement instancier. On ne peut instancier que des classes qui en héritent, comme la classe file stream, telle que nous l'avons utilisée dans un précédent cours. Voilà le 12e chapitre sur l'héritage. Je vous dis à bientôt pour un nouveau cours MVA.